Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
On vous en parlait dans le journal et on vous en parle depuis le début de la matinée. Il y a 5 ans, le 2 novembre 2013, nos collègues Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient assassinés à la sortie de Kidal dans le nord du Mali. Et dans les semaines qui ont suivi, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution décrétant le 2 novembre journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Cette résolution demande à tous les États membres de faire le maximum pour prévenir la violence contre les journalistes. Le texte appelle à aller jusqu'au bout des enquêtes, car trop souvent, pour ne pas dire dans la majorité des cas, ces crimes restent impunis. Selon l'UNESCO, tous les 4 jours, un journaliste est tué quelque part dans le monde. 9 cas sur 10 n'ont jamais été portés devant la justice. Et le sujet est d'autant plus d'actualité après le meurtre, il y a tout juste un mois, du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné dans le consulat de son pays à Istanbul, en Turquie. Depuis le début de l'année, près de 60 journalistes ont été tués dans le monde, tout simplement en nous informant, en faisant leur travail. L'occasion donc, ce matin, de vous donner la parole, de nous dire dans quelles conditions travaillent les journalistes dans vos pays respectifs. Avez-vous le sentiment que leur sécurité est garantie? Parlez-nous de la liberté d'informer. Est-elle respectée dans votre pays? 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur la page Facebook de l'émission. J'en ai lu quelques-unes tout à l'heure en première partie d'émission. J'ai par exemple sous les yeux le témoignage de Diallo Sarko-O sur Facebook. Il nous dit « J'ai connu Ghislaine Dupont à Conakry en 2007 au fameux camp Alpha Diallo pendant les mutineries militaires. Ghislaine avait une âme africaine, un amour sans réserve pour un continent endormi. Ghislaine était une femme de cœur avec un savoir-faire exceptionnel. Repose-toi. » Grâce, nous dit Sarko, grande âme, voilà comme il termine ce message émouvant envoyé il y a quelques minutes sur la page Facebook de l'émission. Rémi, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous avez contacté de Bangui et vous souhaitiez témoigner ce matin, puisque vous êtes en quelque sorte membre de la profession. Vous avez dit au standard, formateur au sein de l'Association des radios communautaires en Centrafrique.
Bien sûr, Juan. Et je l'ai parlé beaucoup plus de nos confrères qui travaillent dans les radios dans les radios communautaires et surtout dans des zones en conflit. Et je pense que ces confrères sont beaucoup plus entre l'étau et que la liberté d'expression est menacée dans ces zones parce que souvent ils sont sous les menaces, sous la pression de ces groupes armés qui leur parfois exigent de diffuser, de communiquer. Parfois qui ne reflètent pas l'éthique et la déontologie de notre profession. Et donc, je pense que aujourd'hui, depuis quelques années, pendant ces événements en République centrafricaine, d'autres ont subi des tortures, d'autres ont été menacés et sont obligés même de quitter leur zone de fonction pour se réfugier quelque part, etc. Et ça fait que vraiment la situation se dégrade parfois dans ces zones-là. Et nos confrères, si on veut parler de la liberté de la presse dans ces zones, je pense que cette liberté est prise en otage et que nos confrères aussi sont en danger permanent.
Oui, vous parlez de la difficulté pour les journalistes de travailler dans les zones contrôlées par les groupes armés, par les milices. Faut quand même rappeler à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde qu'aujourd'hui, 70 à 80% du territoire centrafricain est contrôlé justement par ces groupes et par ces miliciens. J'ai sous les yeux le rapport 2018 de Reporters sans frontières. Je vois que la Centrafrique est 112e au classement mondial et dans son rapport annuel, RSF s'interroge à quand une bouffée d'air pour les médias en Centrafrique. Et effectivement, l'organisation souligne que les attaques contre les médias se poursuivent et la sécurité des journalistes est loin d'être assurée puisque les journalistes sont pris en étau entre les différentes factions en guerre. C'est exactement ce que vous nous disiez à l'instant. Rémi, vous souhaitiez peut-être rajouter quelque chose pour conclure ?
Ce que je voulais rajouter, je voulais dire à ces groupes armés ou bien aux autorités centrafricaines, leurs ennemis, ce ne sont pas les journalistes. Eux, ils ne sont que des intermédiaires. Ils sont là comme des porte-paroles, des sans-voix, et que ces porte-paroles doivent faire leur travail en toute tranquillité et en toute liberté, et que ces personnes doivent cesser des menaces envers les journalistes et que de laisser les journalistes libres faire leur travail pour que cette liberté d'expression qui est garantie par les lois de la République soit effective et soit réelle dans notre profession.
Merci Rémi d'avoir appelé le standard de RFI. Bonne journée et bon courage à Bangui. 9h45, vous continuez à nous rejoindre 33 9 693 693 70. Bonjour Carmel.
Bonjour Juan Gomez.
Vous disiez au standard que dans votre pays, le Tchad, la situation de la presse était mitigée.
La situation est mitigée. D'abord, permettez que je rende hommage à tous ces soldats de la vie qui utilisent leur stylo, leur clavier, leur micro pour porter plus haut la voix de sa voix. Et il y a un journaliste saoudien qui vient de disparaître en Turquie. Le vent globalement n'est pas bon. Les fake news avec l'administration Trump. Mais chez nous, la situation est plutôt critique.
Pourquoi ?
Rien n'a évolué.
Quand vous dites...
sans la presse libre... Sans la presse indépendante, on ne peut pas parler de démocratie.
Quand vous dites, Carmel, que rien n'a évolué dans votre pays, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il est compliqué d'aborder certains sujets, très compliqué, voire impossible d'enquêter sur certaines affaires.
Voilà. Le journaliste, le directeur de publication du journal Le Visionnaire, M. Judas, ça fait plus d'une année, plus ou moins une année, il a été arrêté parce qu'il a fait un reportage sur une affaire plutôt embarrassante. Et là, on l'a reproché de ne pas faire partie du métier. Alors qu'il avait son badge, c'est lui-même qui était le président du patronat de la presse privée. Et en ce moment, la radio Nada de Mundu est mise en demeure. Donc il y a des sujets qu'on n'aborde pas. On n'aborde pas même les faits de société. Aujourd'hui, dans d'autres pays, le prix du pétrole a grimpé. Et normalement, on doit en parler dans les médias. Mais les médias, c'est comme il y a une censure classique, c'est pas explicite en fait. Donc le Tchad n'est pas vraiment, il n'y a pas une presse indépendante.
Je regardais, excusez-moi, Carmel, excusez-moi, parce que je regardais sur Facebook et sur les réseaux sociaux ce qu'il en était du journaliste que vous citiez à l'instant, Juda Ala Ondoum. Effectivement, il a été arrêté il y a un an, quasiment jour pour jour, mais je vois qu'il a été libéré quelques semaines plus tard. Donc il n'est plus en prison, contrairement à ce que vous pouviez laisser entendre.
Oui, il a été libéré, mais il a été arrêté sans raison. Il exerçait son métier. Oui. On ne doit pas risquer pour sa vie, je suis enseignant, je ne dois pas risquer pour aller enseigner. Je crois que c'est la même chose.
C'était juste pour apporter cette précision, parce que en vous écoutant, j'avais l'impression qu'il était toujours détenu. Finalement, non, il a été libéré. Alors, on lui a reproché d'avoir usurpé le titre de journaliste, alors que effectivement, il est lui-même journaliste, il est lui-même directeur d'un journal, Le Visionnaire que vous avez cité tout à l'heure, et il était accusé d'entraver la justice dans son enquête puisqu'il enquêtait sur une affaire de fausse immatriculation. Alors, je regardais en préparant cette émission les statistiques et notamment celles de l'UNESCO, et on apprend que dans la majorité des cas des journalistes assassinés, eh bien 90% des journalistes tués par exemple l'année dernière enquêtaient justement sur des affaires, la corruption, la criminalité, les affaires politiques. Donc c'est important de rappeler ce chiffre. Carmel, je vous interromps, merci beaucoup d'avoir appelé de Djamena. 33 9 693 693 70. Réaction sur Facebook, par exemple Dalia qui nous dit avoir une pensée pour les journalistes algériens qui sont en prison depuis 10 jours. Pensez également à notre collègue Saïd Chitour, accusé d'espionnage, emprisonné depuis un an et demi, et hommage à tous ceux qui ont donné de leur sang pour la liberté d'expression en Algérie. Alors effectivement, trois journalistes ont été arrêtés le 22 octobre dernier. Ils sont inculpés de diffamation. Reporters sans frontières, puisque je donne des informations, a adressé ce mercredi une lettre au président Abdelaziz Bouteflika pour demander leur libération. Et s'agissant de Saïd Chitour, cité donc par cet auditeur sur Facebook, il a effectivement été incarcéré. Il est en détention provisoire depuis un an et demi et il a été évacué il y a quelques jours en urgence à l'hôpital puisqu'il souffre, selon sa famille, d'une tumeur au cerveau. Merci Dalia d'avoir cité également nos confrères en Algérie. 33 9 693 693 70. Bonjour Fayala.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs du monde entier.
Vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur en chef. Avez-vous envie de citer votre radio, puisque vous nous avez appelé, mais après, je ne sais pas jusqu'où vous avez envie de vous présenter sur les ondes de RFI. Peut-être souhaitez-vous peut-être conserver un certain anonymat pour des raisons de sécurité, comme vous voulez.
Voilà. Juan, comme je l'ai dit hors antenne, dans notre profession de tous les jours, on se sent comme Ghislaine Dupont et Claude Verlon, parce qu'on se dit que ça peut nous arriver à tout moment. En Guinée précisément, ici en particulier à Doko, la zone où je sers, donc il y a des messages de d'agression en quelque sorte comme ça. On est...
Allô, Fayala.
Ah. Vente, il faut dire comme ça.
Fayala, excusez-moi, il y a eu une coupure de réseau téléphone. Vous nous disiez recevoir régulièrement des messages.
Oui, des messages de menace,
oui.
Même juste après les élections, même à l'occasion de l'installation des conseils communaux, lorsque j'ai envoyé des reporters pour couvrir les événements, on a été agressé quelquefois de part et d'autre. Le pouvoir nous suit de près, hein, mais aussi la communauté qui se sent appartenir d'un parti à un autre parti, à un seul mot pressé sur l'antenne, il se sent frustré et il prend position contre le journaliste.
Ça veut dire, quand vous dites, Fayala, je vous écoute et je découvre votre témoignage, vous dites, on est menacé, on est agressé de part et d'autre, c'est-à-dire que ce sont les partisans finalement de tous les camps, aussi bien le pouvoir que de l'opposition, qui font pression sur vos journalistes, et qui font pression sur vous?
Oui, effectivement, Juan. Mm. C'est-à-dire qu'à l'occasion souvent des émissions radiophoniques ou de journal, il se passe des fois qu'on passe des interviews et qui ne plaît pas à un camp, donc à un parti politique. Donc, les partisans de ceci te mettent en garde comme ça, une histoire de mettre les bâtons dans tes roues, donc de miserer la presse en général. On se rappelle en Guinée, il y a eu des fermetures de radios à Conakry. Des radios ont été récemment saccagées à Kankan. Donc, chaque jour que Dieu fait, nous, on a la peur au ventre ici dans la pratique de ce métier. On ne sait pas où se donner la tête parce que la communauté à laquelle on est là pour la cause, elle aussi, d'une partie, elle est contre nous parce que la communauté en majorité est divisée par les politiciens et quand la politique s'invite dans la danse, vous savez, Juan, qu'est-ce que ça donne en Afrique? Ici, à l'occasion de l'installation de conseillers communaux, on a été victime. Un de nos journalistes a été agressé parce que tout simplement, on lui a vu passer auprès de leur lieu de réunion et on lui a soupçonné peut-être d'avoir pris des informations. Oui. Donc voilà des choses qu'on n'arrive pas à digérer.
Que vous ne digérez pas, et c'est votre quotidien, et votre quotidien n'est pas forcément systématiquement tous les jours médiatisé, mais moi j'ai le souvenir, et on en a parlé évidemment sur l'antenne de RFI, plusieurs auditeurs nous avaient appelé à l'époque pour réagir, de ces journalistes brutalisés, il me semble que c'était il y a peut-être l'année dernière ou en début d'année, des journalistes brutalisés dans une gendarmerie de Conakry, ils étaient venus très nombreux, par dizaines, pour soutenir l'un des leurs confrères qui étaient détenus à la gendarmerie et ils avaient été brutalisés, ils ont reçu des coups de matraque, des coups de pied et ça avait suscité évidemment un tollé, d'autant que les gendarmes ont récupéré les caméras, les téléphones portables des différents journalistes venus manifester dans cette gendarmerie. Merci beaucoup Fayala de ce témoignage. Sur Facebook, Adrien rend hommage aux journalistes tués au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Merci Adrien. Réaction également d'Emir Zerbo, Burkina, il nous dit dans son pays, personne n'osera plus jamais s'en prendre à un journaliste car l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo en décembre 93 a plongé le pays dans une grave crise qui a bien failli coûter son poste au président de l'époque, Blaise Compaoré. Bonjour Badara.
Bonjour.
Alors, vous disiez au Standard que la liberté de la presse dans votre pays, le Mali, était limitée. J'ai sous les yeux le rapport de Reporters sans frontières qui parle, d'une liberté de la presse fragile.
Bien. Alors, je pense que c'est
C'est la même chose, pratiquement, parce que si je regarde un peu, moi, ce que je déplore dans le comportement des journalistes ici au Mali, c'est le niveau de ces journalistes-là, souvent qui s'adonnent à des pratiques peu orthodoxes du métier. Alors, je me rappelle au Mali, au moment où les événements étaient dans le pays, où c'était des coups d'État et ainsi de suite, tout le monde s'attaquait à l'ORTM, par exemple, et je me rappelle que l'ORTM avait arrêté de faire des journaux juste à cause de ça.
Alors attendez, l'ORTM, la radio-télévision malienne, quand vous parlez des coups d'État, etc., là on est dans les années 90. 80.
C'est cela.
Oui, parlons d'aujourd'hui. Badara, excusez-moi, le temps presse, on a peu de temps malheureusement, et on peut pas refaire l'histoire des médias de tous les pays, mais je voudrais que, là, en 2018, quel est votre sentiment, votre impression? Vous parliez de la qualité, du niveau de la presse.
Voilà, maintenant je pense par exemple à monsieur Birama Touré qui a été porté disparu le 29 janvier 2012 et ça fait trois ans aujourd'hui pratiquement. Mmh. Aujourd'hui, on n'en parle même plus au Mali. Même les journalistes n'en parlent pas. Alors, dites-moi, la solidarité, elle est bien. Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont partis il y a 5 ans. Mmh. On en parle. Il y a les Champs-Élysées qui sont éteints, mais
la Tour Eiffel. Effectivement, mais on en parle, excusez-moi, je vous interromps une seconde, parce que RFI est là, parce que ses collègues sont là, parce que les collègues de Ghislaine et de Claude continuent à se mobiliser, l'association des amis de Ghislaine et Claude se mobilise, la rédaction, la direction de RFI et de France Média Monde se mobilise également pour que la vérité soit connue, que toute la lumière soit faite sur l'assassinat de nos deux collègues et nos deux amis. Alors, vous parlez de solidarité, effectivement. Ghislaine et Claude ont, dans leur malheur, cette chance d'avoir, une famille, des amis, une direction, des collègues qui se mobilisent pour que l'enquête aille jusqu'au bout et que justice soit rendue un jour. Je vous interromps, je regarde la pendule, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on donne la parole à Lionel. Il est journaliste, il vient de nous appeler de Kinshasa. Bonjour Lionel.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous souhaitiez témoigner?
Oui, d'abord, avant de témoigner, je voulais rapidement rendre hommage à Ghislaine et Claude qui ont accepté de payer le prix. Ce prix qui libère aujourd'hui, à mon avis, le métier journalistique au monde entier. Et ce prix que j'interprète comme signe de courage puis de bravoure que nos confrères ont fait face justement pour sauver. Et grâce à eux, aujourd'hui, nous obtenons une journée d'écrité pour combattre les impunités contre les journalistes et rire mémoire à tous les deux.
Très bien, merci pour eux, merci de vos pensées. Lionel, vous disiez, que c'était très compliqué au quotidien de travailler, Lionel.
Absolument, ça c'est la difficulté quotidienne que nous racontons un peu tous les jours dans notre métier. Moi par exemple, pour respect, je méritais le nom de ma rédaction, mais seulement que j'ai croisé aussi certaines difficultés où j'ai reçu des pressions simplement puisqu'il fallait donner l'information, il fallait quitter l'objectivité pour cacher certaines vérités. Ça c'est la liberté que les dirigeants ont pris en otage, que nous on doit arracher absolument. Permettez-moi de donner quelques exemples rapidement. Il n'y a pas longtemps, nos confrères de la rédaction de Africa News qui ont été arrêtés violemment et traités comme des bandits. Et ça, ce ne sont pas des conditions que nous n'irons voir pour la continuité de notre métier. Et surtout, je suggérais à RDC, aller à l'Est aujourd'hui, il n'y a pas moyen que les journalistes travaillent puisqu'il y a la présence absolument des groupes armés qui dominent absolument. Mais je pense qu'on ne doit pas seulement rester dans les discours de plainte et regretter cela, mais on doit, nous, seuls journalistes, la corporation tout entière, revendiquer nos droits obtenus.
C'est en quelque sorte ce que vous faites, Lionel, ce matin, revendiquer vos droits. J'ai écouté